LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet 1945. Il est exactement 15h32 et nous venons de pénétrer dans la capitale du Reich, dans le cœur de Berlin. Notre micro est installé sur un trottoir de la Wilhelmstrasse, juste en face de la grande chancellerie, un immense bâtiment en deux ailes. Je dois vous dire tout de suite que nous avons en face de nous un fantôme de chancellerie. Les murs sont criblés de trous d'obus, tant et si bien que l'on ne pourrait poser la main sur le mur sans rencontrer un trou. Tout ce bâtiment offre un aspect lugubre, comme d'ailleurs la ville tout entière qui n'est, et ceci je vous l'assure, que ruine.
Hisser les drapeaux blancs, comment faire la paix? Marie Chartron, Franck Lilin. Aujourd'hui, les adieux à la guerre.
Laissez-moi vous dire combien le décor est impressionnant ici. Nous n'avons plus affaire à une ville, à une rue, mais à une sorte de cimetière de ferraille. Les rues sont coupées par d'énormes entonnoirs, les rails de tramway se dressent dans le ciel, les voitures criblées de balles sont abandonnées, rouillées, sont sans dessus-dessous, à ma droite un tank allemand est couché sur le côté, et des femmes allemandes travaillent en ce moment à déblayer un trottoir, et pour ceci, elles forment une queue de quelques 30 mètres, et elles se passent de la main à la main des seaux remplis de briques et de terre.
Les combats sont terminés, la paix a été signée, le temps est venu de la reconstruction. Peut-être se retrouve-t-on au milieu des ruines. Peut-être n'y a-t-il pas tellement de traces visibles, mais le monde est dans tous les cas un peu différent.
Ici, beaucoup d'animation, des camions de l'armée rouge passent sans arrêt et chaque fois les soldats nous font de grands signes amicaux. La jonction avec l'armée rouge s'était déjà faite, comme vous le savez, au moment de la grande bataille, au moment où la bataille faisait encore rage. Mais aujourd'hui, la jonction prend un caractère officiel, puisque les troupes alliées viennent de faire leur entrée dans Berlin, et ceci sans parade inutile, uniquement en rentrant dans la capitale allemande, à bord de jeeps, de commandes-cars, d'Alftrak ou de tanks. Nous attendons toujours ici, d'ailleurs, le passage des tanks de la 2e division blindée américaine. Et il ne serait trop tardé, car les femmes policemen russes, fusils à la bretelle et fanions dans les mains, agitent leurs drapeaux pour faire circuler les Berlinois curieux et arrêter également la circulation perpendiculairement à la Wilhelmstrasse. En effet, voici les premiers tanks américains qui débouchent d'une rue. Écoutez-les, ils passent, c'est l'entrée discrète des troupes alliées à Berlin.
Ceci nous amène à la période tout à fait actuelle, c'est-à-dire à cette date du 10 octobre où mettent fin à 81 ans de présence française au Tonkin, les troupes de l'armée démocratique du Vietnam ont fait leur entrée dans la ville d'Hanoï. On sait que d'ici quelques semaines, Haïphong à son tour sera évacué. Eh bien, l'atmosphère de ce jour, qui est pour nous tous douloureux, nous nous permettrons de vous la faire entendre brièvement dans sa crudité terrible, avec le chant rythmé des soldats Viet Minh faisant leur entrée dans Hanoï, tel que les a entendus Jean-Pierre de Richaumont, correspondant de Radio Genève.
Radiodiffusion française, 1954. Journal national, 1947.
À Stalingrad, où se marqua le tournant de la guerre, les traces de la bataille n'ont pas encore disparu. Les envahisseurs d'hier sont restés. Ils déblaient. Demain, ils reconstruiront. Les transports sont encore déficients. Stalingrad, aux portes de l'Orient, a retrouvé en plein XXe siècle le pittoresque des caravanes. Pittoresque provisoire, car déjà l'usine Octobre Rouge a repris son activité et Stalingrad, qui n'a pas voulu mourir, revit.
comment ce qu'on nomme de manière sans doute un peu rapide le retour à la paix se met-il en place? D'une guerre à l'autre, d'une paix à l'autre, et avec le concours de l'historien Nicolas Offenstadt et du juge Marcel Lemonde, que peut-on saisir dans les archives audiovisuelles des transformations individuelles et collectives?
Puisque nous parlons de l'organisation de la paix et que vous me laissez le soin d'ouvrir le feu, je crois d'abord qu'il faudrait distinguer entre deux ordres de problèmes fort différents, mais que l'opinion a souvent quelque peine à reconnaître.
Tribune de Paris, 1946, Georges Gors.
D'abord, ce qu'on pourrait appeler la liquidation de la guerre, le règlement des comptes, cet ensemble de traités qui doivent fixer le statut territorial du monde et dont l'élaboration a été confiée à la suite des décisions de Potsdam et de Moscou à ces conférences qui réunissent les ministres des Affaires étrangères des plus grandes puissances intéressées. Ensuite, les problèmes qui ne sont plus seulement la liquidation de la guerre, mais l'organisation positive de la paix, qui pour nous se confond avec l'organisation de la sécurité collective.
Dans le palais où se tient la conférence de San Francisco, M. Stettinius reçoit les représentants des Nations Unies, parmi lesquels on reconnaît M. Molotov, chef de la délégation soviétique, et M. Eden, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne.
Conférence à l'ONU, San Francisco.
Le monde, dit le président des États-Unis, sent renaître sa foi dans la force morale du principe de justice. Les membres de cette conférence sont appelés à être les architectes d'un monde meilleur. Si nous ne voulons pas mourir ensemble par la guerre, nous devons apprendre à vivre ensemble dans la paix.
We must learn to live together in peace.
Les actualités françaises, 1946.
À Trieste, la situation reste tendue. Yougoslaves et Italiens revendiquent le grand port adriatique. Et chaque jour voit se dérouler à travers la ville des cortèges de manifestants. Le problème de Trieste pèse lourdement sur l'Europe. L'Italie conservera-t-elle son port? Ira-t-il au contraire à la Yougoslavie? Ou bien, troisième solution, sera-t-il internationalisé comme port de l'Europe centrale? Une question que doit résoudre la paix.
Dans l'accomplissement d'une paix, il y a évidemment plusieurs niveaux.
Nicolas Offenstadt.
Le niveau qui est le plus élémentaire, le plus simple à décoder, ce sont les clauses précises, qui peuvent être des clauses de désarmement, qui peuvent être des clauses territoriales, qui peuvent être des clauses financières, etc. Donc ça, c'est la dimension, évidemment, la plus classique, la plus ordinaire qu'on va trouver dans tous les traités. Mais évidemment, la question qui se pose, si on parle en termes de paix, c'est que ces questions-là ne disent rien de la manière dont les populations concernées vont vivre après. Et donc, du coup, il y a plusieurs niveaux, là aussi, qui se déclenchent à partir du moment où on pose cette question. C'est d'abord, évidemment, tous les changements territoriaux et la manière dont des populations qui avaient été sous une gouvernance passent à une autre, évidemment, et parfois contre-cœur, parfois avec joie, c'était parfois l'objectif de la paix. Et puis, parfois, à l'intérieur même de ces populations, il y a des clivages entre ceux qui étaient d'une obédience et ceux qui étaient d'une autre. Donc, il y a évidemment, forcément, effectivement, la question du vivre ensemble après, qui n'est pas toujours posée, d'ailleurs, dans les traités. Hein, certains s'imposent par la force. Hein, donc, il n'y a pas toujours cette prise en considération qu'il faille intégrer des populations qui n'ont pas forcément envie de changer d'obédience. Donc il y a une question assez concrète de savoir comment les gens vont vivre ensemble.
RFI, Elikiam Bokolo, le 10 avril 2000.
On est donc dans une situation où le retour à la paix est possible, mais dans un pays qui a subi des violations extrêmement graves des droits de l'homme, un pays dans lequel les milices se multiplient, se combattent, se fractionnent, où des crimes très nombreux ont été commis. Comment, dans ces conditions, est-il possible de rétablir la paix et de réconcilier la nation ? Premier témoignage, Mokhtar, jeune étudiant de 26 ans, victime.
When they attacked Kono, we ran into the bushes. We were there for a month, for months and some weeks.
Quand ils ont attaqué Kono, nous nous sommes enfuis dans la jungle pendant plusieurs mois. Puis quand nous avons entendu à la radio que les Komog avaient libéré la ville, nous nous sommes décidés à sortir de la jungle. Sur notre route pour retourner en ville, c'était le 18 avril 1999, nous sommes tombés sur une embuscade dans une ville nommée Tombo. Quand nous sommes arrivés là-bas, ils ont demandé à mon oncle de se mettre de côté. Mais j'ai dû me mettre avec 6 autres personnes. Je pensais que les militaires allaient nous enrôler de force, mais malheureusement pour moi, j'ai vu qu'ils commençaient à couper leurs têtes. 6 personnes ont été tuées de cette façon. Je voulais m'échapper, mais je n'avais aucune possibilité. Je n'avais pas d'autre alternative. Un autre militaire est arrivé. Il m'a demandé de m'allonger. Je me suis allongé et il m'a attaché les mains et les pieds. Alors un autre est arrivé et il a dit dans notre langue « Descends ce type ». Je pensais qu'ils allaient me tuer. Un homme est arrivé avec une machette. Il a coupé mes liens et m'a dit de poser mon bras sur une pierre. Je n'avais pas le choix, j'ai dû poser mon bras droit alors que j'étais droitier. Ils m'ont amputé, je me suis évanoui et alors il m'a coupé les oreilles. Une fois avoir fait ça, ils m'ont dit que la junte militaire ne voulait pas que je poursuive mon éducation pour que je devienne un politicien ou pour que je m'engage pour le gouvernement. Amputé, je ne pouvais plus voter ni rien faire contre eux. Je sais qui m'a fait ça. Je les ai vus dernièrement.
Écoutez, 30 ans après, j'ai quitté le pays depuis 79.
Denise Afonso, survivante franco-cambodgienne du génocide Khmer Rouge, 2007.
30 ans après, j'ai l'impression, j'ai l'impression de vivre normalement, au jour le jour. Mais quelque part, au fond de moi, les séquelles sont toujours là. Je continue à faire des cauchemars. Et j'ai aussi peur de retourner dans le pays, en dépit de ce que tout le monde dise, que ça revit, que tout le monde vit normalement. Et je continue à avoir peur, même à Paris. Même ici, j'ai peur, parce que je sais que jusqu'en 90, les Khmers Rouges ont encore pignon sur rue, ici, en France. À l'ONU, ils ont encore leur siège grâce à la Chine et aux Américains. Et ça, je n'ai jamais compris. Et moi-même, ici, j'ai eu peur, j'ai eu très peur.
Le désarmement est en cours, mais comment réinstaller les anciens combattants? Comment les faire revenir à la vie civile? Momo Konté, 17 ans, il a été kidnappé et dressé par les militaires rebelles. Il s'est rendu naturellement coupable de nombreuses exactions et aujourd'hui, c'est lui qui vit dans la peur.
Moi, je veux quitter la Sierra Leone car je ne me sens pas en sécurité ici. J'ai brûlé des maisons, tué des gens et commis tellement d'atrocités envers mon peuple. Maintenant, je voudrais partir en Europe pour poursuivre mon éducation. Quand je me promène en ville, j'ai toujours l'impression que quelqu'un à qui j'ai brûlé la maison ou tué des proches va me reconnaître. S'il me reconnaît, alors il voudra se venger, peut-être même me tuer. Alors qu'est-ce que je peux faire d'autre que partir?
Francis Kaikai, responsable du programme Désarmement, Démobilisation et Réinstallation.
Le grand défi de notre programme, ce n'est pas le désarmement, mais plutôt de savoir ce que nous ferons après avoir désarmé et démobilisé les combattants. Notre stratégie est claire. Nous savons qu'un certain nombre de ces hommes ont commis d'abominables atrocités, et ce, même dans leur communauté. Maintenant, ils ont peur de retourner chez eux, et c'est aussi la raison pour laquelle certains refusent de déposer les armes. Les soldats ayant soutenu la junte veulent maintenant réintégrer l'armée sierra-léonaise car ils pensent qu'ils y seront en sécurité. Mais il faut savoir que le gouvernement et la majorité des sierra-léonais sont prêts à leur pardonner. Nous faisons chaque jour un travail de sensibilisation auprès des communautés qui ont été victimes d'atrocités et maintenant ils sont prêts à accepter leurs enfants.
Pouvez-vous leur pardonner?
Je peux admettre l'amnistie car je ne veux pas que d'autres connaissent les mêmes souffrances que moi. Je ne demande aucune vengeance. C'est très difficile pour nous d'oublier. C'est même impossible. Avant, je faisais tout par moi-même. Je n'aime pas mendier. Je déteste ça. Mais maintenant, ils m'ont transformé en mendiant.
Marcel Lemonde, juge d'instruction entre 2006 et 2010 pour le procès international des Khmers Rouges au Cambodge.
Est-ce qu'il peut y avoir une paix sans justice? C'est une vraie question. Et il est intéressant de voir ce qui s'est passé dans les différents procès qui ont eu lieu au cours des 40 dernières années. Il y a un exemple qui est particulièrement enrichissant de ce point de vue-là, c'est l'exemple du procès Barbie. Le procès Barbie a eu lieu 50 ans après la commission des faits, et il est frappant de voir combien les victimes exprimaient des émotions absolument inattendues dans le cadre de leur témoignage. On a vu que 40 ans après, le simple fait d'évoquer les faits dont avaient été victimes ces témoins provoquait des réactions émotives impressionnantes. C'est intéressant parce que les pays où cette expérience n'a pas eu lieu montrent d'une manière ou d'une autre qu'on ne peut pas reconstruire un pays sur le mensonge ou sur l'oubli. Il faut, à un moment ou à un autre, que des faits soient établis.
Nous allons maintenant écouter le point de vue de ces hommes politiques qui ont finalement conçu, organisé et mené la guerre et entendre comment, eux, ils conçoivent le retour à la paix. Johnny Paul Koroma, ancien dirigeant de l'AFRC, la junte qui a renversé le président Ahmed Tejan Kaba en 1997.
Vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissiez, vous ne me demanderiez pas si je me sens coupable. Je suis désolé de ce qui s'est passé, mais ne tournez pas les choses de cette façon si je me sens coupable. Être coupable, c'est accepter d'avoir commis les actes. Je suis désolé, pas coupable.
Le Cambodge, il a fêté il y a quelques jours le 25e anniversaire du régime des Khmers Rouges, un régime responsable de la mort de près de 2 millions de personnes, un des génocides les plus effroyables du 20e siècle. Et jusqu'ici, aucun de ses dirigeants n'a été poursuivi pour ce crime. Le leader Pol Pot est mort en liberté, c'était en 98. La plupart des responsables Khmers qui vivent encore aujourd'hui sont regroupés dans la région de Pai Linh, à la frontière avec la Thaïlande. Un procès devrait pourtant se tenir cette année au Cambodge. Est-ce pour cela que l'ancien président Khmer, Khieu Samphan, est sorti de son silence. En décembre dernier, dans la presse cambodgienne, il a enfin reconnu le caractère atrocement brutal du régime, mais il refuse toujours de parler de génocide. Le témoignage exclusif de Khieu Samphan au micro de Benoît Colomba.
Il y a des crimes commis sous le régime Khmer Rouge des années 75-78. On peut parler des massacres. J'ignorais qu'il pouvait exister une telle institution. Je n'arrive pas à comprendre si facilement qu'il pourrait y avoir génocide.
Khieu Samphan, est-ce que vous répondrez à la convocation du tribunal?
Bien sûr, je répondrai. Je me présenterai devant le tribunal. Je ne peux pas plaider coupable. En ma conscience, je n'ai commis aucun crime.
Pourtant, Khieu Samphan, en avril 77, donc au moment le plus intense des massacres, vous disiez à l'époque « Nous devons exterminer l'ennemi, tout doit être fait avec ordre et à fond ».
N'importe quel régime, n'importe quel pouvoir doit lutter contre ses ennemis. Aujourd'hui, je suis en confrontation avec d'absurdes contradictions.
C'est compliqué parce que juger 30 ou 50 ans après les faits, c'est pas simple, il y a des témoins qui ont disparu, il y en a d'autres qui ne veulent pas se souvenir parce que ils ont peur de représailles ou parce qu'ils ont peur d'être poursuivis eux-mêmes. Mais quand on ne parvient pas à organiser ce débat judiciaire, quelque chose manque quelque part. On voit bien, à propos de la guerre d'Algérie par exemple, que les plaies restent ouvertes et qu'il y a une dimension qui a sans doute été gommée en cours de route, et qui fait que on ne peut pas arriver à une paix durable si, au départ, il y a une absence de reconnaissance de ce qui s'est passé. Je repense au témoignage d'un Cambodgien, un vieux Cambodgien qui avait été interviewé par des journalistes au moment de l'arrestation des leaders Khmer Rouge. Il avait dit « Ça fait 30 ans que j'attendais ça. Depuis que je sais que les leaders Khmer Rouge sont en prison, j'ai retrouvé le sommeil. » Et je trouve que c'est une belle illustration de la dimension restaurative de la justice, qui est difficilement remplaçable par quelque autre formule que ce soit. Il faut qu'à un moment ou à un autre, la justice passe, c'est-à-dire qu'elle dise les accusés sont coupables ou non, et les victimes ne sont pas coupables, ce sont des victimes. Ça, c'est une résultante de l'intervention judiciaire, et je crois que elle est irremplaçable.
All right, foyer, vous levez. The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia is now in session. L'audience du Tribunal Pénal International pour l'Yougoslavie est ouverte. Please be seated.
Vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour, cabine technique. Bonjour les interprètes. Bonjour Saint Juridique Sénotypiste. Bonjour Madame Maulis. Bonjour Monsieur Saxon. Bonjour les avocats de la défense. Je vois qu'ils sont tous là. Bonjour les accusés. Madame la greffière, pouvez-vous annoncer l'affaire, s'il vous plaît?
Good afternoon, Your Honors. This is case number IT9830-1T. The prosecutor versus Kavatchka and others.
France Culture, 2007. Emmanuel Chicon et Benjamin Bibas sont en Bosnie-Herzégovine.
Asra Penava, vous avez attendu 14 ans, vous vous battez depuis 14 ans. Les blessures sont assez lentes à se refermer. Quand on parcourt Mostar, que ce soit la partie occidentale ou la partie orientale, on voit encore énormément de bâtiments qui sont défigurés par la guerre. On a l'impression que la ville aussi a mis beaucoup de temps et met encore beaucoup de temps à panser ses plaies, aujourd'hui encore en 2007.
Les blessures de la ville, on peut les guérir par une vérité entière, une vérité complète. Le monde a adopté une loi selon laquelle le prisonnier de guerre, on ne doit pas le tuer. Quant à mon mari et ses 12 combattants, ses 12 consorts, soldats, ces conventions de Genève n'avaient pas été respectées par les Croates. Et si M. Perlić n'était pas jugé, et aussi les exécuteurs directs des tueries, des assassinats,
onda će moja vjera u Haški tribunal pasti.
Donc si ces hommes n'étaient pas jugés, ma croyance, ma confiance au tribunal de La Haye va disparaître.
To je ono što ja očekujem od Haškog tribunala i od zakona.
C'est ce que je veux que le tribunal de La Haye fasse.
Dans le cadre des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, on a très vite été confronté au problème du nombre de victimes. Il faut savoir que pendant la période Khmer Rouge, environ 2 millions de personnes ont été victimes du régime. Il y a eu 2 millions de morts par exécution, torture, malnutrition, épuisement au travail, etc. Donc, potentiellement, on avait un nombre de parties civiles, c'est-à-dire de victimes demandant réparation, qui était ingérable. De même qu'on ne pouvait pas envisager de poursuivre tous les exécutants de crimes de masse, parce qu'ils étaient en nombre considérable. Donc, on a, dans un premier temps, dans le règlement intérieur, fixé une règle fondamentale, c'est que toute forme de réparation financière était exclue. On a choisi de faire une forme collective et symbolique de réparation en s'en tenant à des signes forts pour prendre en compte l'aspect justement thérapeutique et réparateur de ces formes d'indemnisation. Concrètement, comment est-ce que ça s'est passé? Il y a eu des formes de réparation sous forme de mémoriaux mis en place dans les différentes régions. On a organisé des sessions d'information, de sensibilisation sur la période Khmer Rouge, des prises en charge psychologiques pour les personnes souffrant de stress post-traumatique. On a multiplié donc les formes innovantes de réparation symbolique et collective. Le rôle de la justice est de statuer sur la culpabilité, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi prendre en compte les effets indirects d'un procès, comme par exemple l'organisation d'un débat public. Ça, c'est très important. Si je reprends encore une fois l'exemple du Cambodge, Pendant 30 ans, la période Khmer Rouge était taboue dans la société. On n'en parlait pas dans les familles parce que c'était trop douloureux. On n'en parlait pas dans les programmes scolaires parce que c'était trop sensible. Et il a fallu que le procès arrive 30 ans après pour qu'on commence à assister à l'ouverture d'un débat public qui s'est manifesté de manière d'ailleurs très originale, puisque on a constaté que dans les villages reculés du Cambodge, on organisait des débats à partir des retransmissions télévisées des audiences, retransmissions qui étaient regardées sur des téléviseurs alimentés par des batteries de voitures, et les villages débattaient pendant des heures de ce qui se disait aux audiences. Ça, c'était quand même une dimension très importante du procès, et c'est une des conséquences du fait que le procès a été organisé sur place, avec la participation des Cambodgiens, avec la participation des juges cambodgiens aussi.
Elles ont obtenu gain de cause.
FR3, le 11 août 2000.
Enfin, la justice des hommes a condamné l'un des tortionnaires de ces 15 femmes, l'ancien président des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic. Toutes sont musulmanes bosniaques, toutes ont été capturées, violées, torturées par les miliciens serbes.
Nous sommes heureuses parce que nous avons atteint notre but, c'est une satisfaction morale. C'était si difficile d'attendre 7 ans avant d'être entendue.
En condamnant Karadzic à l'équivalent de près de 5 milliards de francs de dommages et intérêts, la Cour de New York a explicitement reconnu la culpabilité de l'ex-dirigeant serbe. C'est une première. Le tribunal pénal international de La Haye l'a bien inculpé il y a 4 ans pour crime contre l'humanité. Karadzic est un des responsables du massacre de 7000 musulmans à Srebrenica. Mais l'homme n'a jamais été jugé. Il est en fuite depuis 3 ans.
Ce n'est pas du tout incompatible avec une autre dimension thérapeutique qui prendrait place après. Mais le préalable judiciaire, le préalable du débat public dans le cadre d'une audience judiciaire, avec un rituel de parole qui soit bien ordonné et qui obéit à des règles très précises qui sont bien connues depuis toujours, tout ça est absolument fondamental pour la suite.
Êtes-vous vous-même des exemples de résilience ou est-ce que c'est un mot vide pour vous ? Denise Afonso.
France Culture, Grande Traversée sur le Cambodge, par Laure de Vulpian. 2007.
Pour moi, le mot résilience, c'est la résignation. C'est quoi exactement ? C'est la première fois que j'entends ce mot.
Alors, Richard Reichmann, psychiatre.
La résilience, c'est une notion qui est apparue il y a une vingtaine d'années à peu près, oui. Et qui traduit la capacité de certains sujets à supporter les traumatismes et à les
sublimer.
Alors, pour ma part, je n'y crois absolument pas. Je pense que c'est pas une notion. Je n'adhère pas à cette notion pour une raison toute simple, c'est que je pense qu'il y a plusieurs raisons d'être traumatisé et que chaque individu n'est pas nécessairement traumatisé par des événements typiques. Donc la résilience supposerait que l'on soit nécessairement traumatisé par des événements hors du commun. Et l'exemple du Cambodge montre bien qu'un certain nombre de personnes ont vécu des choses épouvantables et qu'ils ne sont pas traumatisés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont résilients. C'est tout à fait important parce que ça va éclairer un des points du débat, excusez-moi de revenir un tout petit peu en arrière, mais sur sont-ils traumatisés, pas traumatisés. S'ils ne sont pas traumatisés, alors on passe à autre chose. C'est absurde. À aucun moment la question traumatique doit être un argument ou non pour revenir sur le passé. C'est pas parce que des gens souffrent que ça prouve qu'il s'est passé quelque chose ou que ça prouve qu'il ne s'est rien passé.
Ça doit juste être un constat, éventuellement un sujet d'étude.
Ça doit être une question politique et sociale qui fait qu'il s'est passé des choses, on les condamne. Jusqu'à présent, les femmes violées étaient soupçonnées de tout un tas de choses. Ça a changé progressivement. Aujourd'hui, une femme violée qui n'est pas traumatisée redevient suspecte. Je pense qu'il faut sortir impérativement de ce genre de choses. On peut être violé sans être traumatisé. Il n'en reste pas moins que cet acte est abominable et qu'il est condamné et qu'il est répréhensible. Donc je crois qu'il faut distinguer l'aspect juridique, l'aspect pénal, l'aspect de l'histoire sociale et l'aspect du traumatisme. À ce moment-là, on n'a pas besoin de la résilience. On n'a pas besoin de se poser cette question. Il y a des gens qui vont mal, il faut les aider. Il y a des gens qui vont pas trop mal, ça nie pas l'histoire épouvantable qu'ils ont vécue.
Alors, il y a beaucoup de questions là. D'abord, pour ce qui concerne la temporalité, la grande différence entre le Cambodge et les autres juridictions pénales internationales, et ce sera le cas notamment pour l'Ukraine, c'est qu'on ne parle pas du tout de la même temporalité. C'est-à-dire, au Cambodge, on a jugé des faits qui dataient de 30 ans auparavant, alors qu'en Ukraine ou dans d'autres situations comparables, comme l'ex-Yougoslavie ou comme le Rwanda, on a jugé des faits immédiatement après leur commission. Ça change complètement la nature du problème. On a un problème de preuve qui est beaucoup plus compliqué avec des faits très anciens que quand on a affaire à des faits récents. Et on voit bien actuellement, enfin on apprend qu'il y a des découvertes de charniers, des choses comme ça, qui sont immédiates, enfin c'est quelques semaines après la commission des faits. Ça simplifie considérablement le problème de la preuve. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que on constate que dès la commission des crimes, en fait, en tout cas dès leur constatation, la dimension judiciaire est prise en compte. On a des enquêteurs du bureau du procureur de La Haye, de la Cour pénale internationale, qui sont venus sur place pour assister les enquêteurs ukrainiens qui étaient en action dès les premiers jours de la possibilité d'engager des poursuites judiciaires. Donc ça, c'est un élément tout à fait nouveau qui permet de constater que la justice internationale, peu à peu, s'installe dans le paysage des crimes de masse. On considère que c'est une suite logique de la découverte de crimes de masse que des poursuites judiciaires soient engagées. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est évidemment le signe d'une avancée considérable dans la mise en place d'une réaction judiciaire à des crimes qui sont parmi les plus graves qui puissent être commis.
Par définition, la paix souvent sanctionne la fin d'une guerre, et donc la guerre c'est la violence, donc du coup il y a des violences qui ont eu lieu.
Nicolas Offenstadt.
Des violences qui ont eu lieu, qui peuvent être l'affrontement militaire, alors on pourrait dire que c'est le rôle des militaires, mais on est quand même aussi ensuite dans des guerres où il y a des conscrits, donc des gens qui n'avaient pas vocation à faire la guerre. Donc du coup qui ont peut-être subi des choses et des traumatismes et des rapports à l'autre qui ont été extrêmement troublants. Et donc du coup il y a cette question du rapport hein, entre les anciens protagonistes du conflit, entre les anciens ennemis, qui donc doivent être aussi pris en considération. Et quand cette guerre était longue, violente, évidemment, ça peut créer évidemment beaucoup de ressentiment. Et là, évidemment, c'est une deuxième question qui se pose dans la paix. Que fait-on de la violence de la guerre passée, qui peut être une violence entre soldats, mais qui peut être aussi une violence contre les civils, une violence entre civils. Il y a tout un ensemble de formes de violence que la paix peut ou pas considérer. Et puis il y a un troisième niveau, donc je disais, il y a le niveau très concret des changements territoriaux, des populations amenées à vivre ensemble très concrètement. Il y a ceux de la violence passée qu'il faut traiter. Et puis il y a un troisième niveau un peu plus moral, ça va être de savoir si on peut reconstruire entre les adversaires aussi une vie commune ou en tous les cas une possibilité d'échange, même si chacun est resté sur son territoire. Ou même si chacun est à peu près satisfait de la paix. Et donc du coup, est-ce qu'on peut reconstituer une communauté internationale ou nationale avec la paix ?
Comment ça s'est passé pour toi quand tu es revenu dans ta famille ? Est-ce que les gens t'ont considéré comme un héros ? Ils t'ont admiré ? Ou est-ce qu'on s'est plutôt méfié de toi ?
France Culture, Grand Angle sur le Tchad, 1990.
Alors quand j'ai les amis, alors ils se méfient toujours de moi. Quand ils voient que je suis en tenue ou bien en arme, ils se méfient de moi. C'est-à-dire qu'ils imaginent ce que je tire contre eux ou bien faire autre chose, ou bien je suis agressif.
Mais ils n'étaient pas fiers de toi quand tu es revenu ? Tu es quand même parti te battre pour les protéger, pour défendre le pays. Est-ce qu'on n'était pas fiers de toi ?
Oui, ils sont fiers. Les amis, la famille, tout cela sont fiers de moi.
Je peux vous dire qu'ils sont tellement criminels. Ils sont criminels, je peux vous dire. Quand même, quand on a laissé le militaire, quand même, on est obligé quand même de garder ce qu'on a acquis dans l'armée. On devient souvent très violent.
Tu penses qu'on tue plus facilement quand on a fait la guerre ?
Oui, on tue.
Ikichise wa'unka wana henala yelo hiotie kia wa'un.
Chant attribué au chef Sioux Lakota Sitting Bull lorsqu'il se constitue prisonnier à la fin du 19e siècle.
Un guerrier, j'ai été. Maintenant, c'est terminé. Un moment difficile s'annonce.
My name's Tony Aragon.
Mon nom est Tony Aragon. J'ai servi en Corée en 1951-1952. J'étais dans une école indienne dans le Dakota du Sud. Je me souviens bien de cette année. Il y avait un gars qui avait réuni un groupe de garçons pour s'engager.
What was your understanding of what America was trying to do at that time?
Qu'est-ce que je comprenais de ce que l'Amérique essayait de faire à l'époque?
I couldn't really answer that. I don't believe.
Je ne peux pas répondre à cette question.
I never paid much attention to what was going on.
Je ne m'intéressais pas vraiment à ce qui se passait.
They needed volunteers and guys.
Je savais simplement qu'ils avaient besoin de gars volontaires pour le service. C'est tout.
How close did you get to combat?
About from here to that wall over there.
Jusqu'où je me suis approché des combats?
Well, to me, it was still kind of a game.
Là-bas, pour moi, c'était comme une espèce de jeu.
Until the dirt started
jusqu'à ce que ça commence à tomber, que la saloperie commence. Là, j'ai compris que c'était sérieux.
Lucky to get in one outfit that...
Mais j'ai eu la chance d'en sortir en un seul morceau.
What did your family and your friends think about
ce que ma famille et mes amis ont pensé de mon service?
I don't know if they even knew I was gone.
Je ne sais même pas s'ils savaient que j'étais parti, parce que je suis parti directement de l'école. Et je ne suis pas revenu à la maison jusqu'à la fin.
France Inter, Marcel Julien, 1985.
15 novembre 1982, de la neige en montagne. À Washington, l'Amérique inaugure un monument aux morts de la guerre du Vietnam. Ils étaient 15 000 samedi dans les rues, écrit Michel Ford dans Libération, les paraplégiques, les aveugles, les estropiés et les autres, sains de corps mais pas sains d'esprit, pas aujourd'hui en tout cas, puisqu'il s'agissait de revivre la folie. Certains avaient revêtu leur tenue de combat, accroché leurs médailles, et ils ont défilé sous un ciel gris dans un vent glacial. Les spectateurs n'étaient pas nombreux ici comme ils étaient là-bas, jadis. Ils s'en foutaient sûrement. Ils voulaient pleurer ensemble, parce que l'Amérique leur dirait enfin qui n'était plus honteux de s'être battu là-bas. 58 022 noms. 58 022 noms de morts gravés dans la pierre noire et polie du monumental bottin qu'on vient d'ériger sur la pelouse verte de la capitale des États-Unis. Il n'est décidément pas simple de rentrer, de retrouver son rang dans la société américaine, de revoir ses proches, de répondre à des questions, de s'interroger surtout, sans cesse. Suis-je un héros, une victime ou un bourreau? Ce 15 novembre 1982, c'est le tour des morts.
Et d'ailleurs, il y a une image à la fois littéraire, cinématographique et morale qui se développe dans Trente Guerres, c'est l'idée que les morts un jour vont revenir pour demander des comptes aux vivants. Et le retour des morts, hein, le réveil des morts, comme on dit. C'est un film d'Abel Gance, c'est un roman de Roland Dorgelès, et c'est plein d'autres incarnations. Et donc cette idée, qu'avez-vous fait de notre guerre, qu'avez-vous fait de notre paix? Donc cette idée du fantôme, hein, de la présence des morts, c'est quelque chose qui va hanter le XXe siècle, hein, y compris dans son version artistique. Avec cette idée, et ça nous relie aux négociations, qu'avez-vous fait de notre sacrifice? Est-ce que vous avez été digne de nous? Est-ce que vous avez su faire la paix? Est-ce que vous avez su construire une société qui justifie notre sacrifice? Il y a une scène célèbre où on voit tous les... dans Abel Gance, hein, où on voit tous les morts qui se lèvent et qui viennent demander des comptes aux vivants. Et c'est une image littéraire, évidemment, qui est très forte, qui montre, hein, encore une fois, hein, que la temporalité de la paix n'est pas forcément celle non plus qui est intégrée, hein, par les populations. Et d'ailleurs, il y a des familles individuellement qui avaient continué à entretenir la chambre du défunt en 14-18. On en a retrouvé une récemment qui était restée en l'état, hein, c'est-à-dire comme une forme d'hôtel à la fois sacré et laïque, d'une certaine manière, aux morts de 14-18. Donc effectivement, hein, cette présence des morts, c'est quelque chose qui pèse aussi forcément sur la réconciliation, sur la paix, sur la conception de l'autre, hein, jusqu'au bout du XXe siècle encore.
France Culture, 1978.
L'actualité d'ailleurs. Olivier Descamps, artiste, auteur d'interventions plastiques dans les villes, a beaucoup circulé en France et d'année en année, il a attaché de plus en plus d'intérêt à ces sculptures monumentales que l'on trouve dans toutes les communes de France. Et ces sculptures fonctionnent toujours d'un point de vue social, mais elles sont rejetées par les amateurs d'art. Pourtant, ces monuments ont été érigés aux morts de la guerre 14-18. Et nous allons voir ce qu'en pense Olivier Descamps.
En tant que professionnel, nous sommes amenés, tous les sculpteurs, à regarder tout ce qui a pu se faire comme monument. Or, on en voit 1, 2, 10, 20, et puis finalement, on est quand même étonné de leur accord avec la population. Au fond, c'est ça qui a commencé à me toucher. On n'en voit jamais un d'abandonné. Tous sont très, très soignés et très bien entretenus, et on sent qu'ils font partie de la vie sociale en France actuellement.
Il y en a combien en France? On a construit combien?
Eh bien, autant environ que de communes françaises, puisque je crois qu'il n'y a eu que deux communes qui n'ont pas eu de mort pendant la guerre de 14, ce qui fait donc aux environs de 36 000.
Parmi les militants de la paix, il y en a qui ont pensé que, au-delà des traités, au-delà des négociations, au-delà même des processus de réconciliation, il fallait ancrer la paix dans la pierre. Et d'ailleurs, beaucoup de monuments aux morts, même très ordinaires dans les villages, sont des monuments qui ne sont pas des monuments patriotiques à la gloire de la victoire. Parfois, ils le sont, mais c'est aussi des monuments du deuil. Donc, une des manières, d'une certaine façon, de dénoncer la guerre, ou en tous les cas, au minimum, d'évoquer ses conséquences, ce sont des monuments où le deuil est dominant. On retrouve ça beaucoup en France et ailleurs. Et puis même, certains, plus radicaux, plus militants, ont voulu qu'il y ait des monuments qui soient véritablement des hymnes à la paix, en pensant qu'il fallait dénoncer la guerre sur les monuments. Donc il y a un discours de paix par la pierre. Il y en a un qui est très célèbre, dans le centre de la France, à Gensioux, où vous avez un petit gamin qui dresse son poing face à la liste des morts, et il y a marqué « À bas la guerre ». Vous voyez, même c'était des monuments qui pouvaient être communaux lorsque les autorités municipales ou les anciens combattants voulaient ancrer la paix dans la pierre. Après la guerre de 14-18, il y a un pacifiste allemand qui s'appelle Ernst Friedrich qui a créé à Berlin un musée anti-guerre qui était fait de photos des horreurs de la guerre. Donc l'idée que si on veut ancrer la paix, il faut montrer les horreurs de la guerre. Donc ça peut être dans la pierre, à travers des monuments, certains l'ont fait, mais ça peut être aussi en diffusant les images des conséquences de la guerre sur les corps, sur les âmes. Et donc il avait multiplié, il y avait des pendaisons de déserteurs, il y avait des corps qui étaient abandonnés sur la route, il y avait toutes les horreurs, il y avait des prostituées nues qui avaient été, on ne sait pas si elles avaient été violées ou simplement abîmées par les soldats. En tous les cas, tout ce qu'on peut imaginer des horreurs de la guerre. Et donc, c'était disposé dans un musée que les nazis ont fermé. C'est une des premières choses qu'ils ont faites, évidemment. Ce que vont dire très vite les pacifistes, et notamment les plus radicaux, c'est de dire il faut tout de suite, au-delà de tout ce que je viens de dire, au-delà des violences, il faut tout de suite reconstituer des rapports communs, la possibilité de considérer l'autre non plus comme l'ennemi, mais comme quelqu'un avec qui vous allez pouvoir commercer. Et donc qu'est-ce que vont faire les pacifistes, les militants de la paix dans les années 20, pour compléter en quelque sorte la paix, ou s'y opposer, puisqu'on a vu qu'elle pouvait être très violente pour certains de ses protagonistes, c'est par exemple d'organiser des grands congrès internationaux, et notamment où les anciens adversaires vont se rencontrer. Donc vous avez dans les années 20, dans les milieux catholiques, dans les milieux socialistes, la multiplication de congrès pour la paix. Une des grandes figures de cette époque, c'est le catholique social Marc Sangnier, en France par exemple, pour donner des exemples, qui va multiplier. Et donc cette idée de dire, il ne s'agit pas simplement de la paix, il s'agit aussi de pouvoir être ensemble, entre anciens adversaires, se rencontrer. Et ensuite, les plus radicaux vont même proposer que ce soit des Français qui aillent entretenir des tombes allemandes, qui aillent se recueillir sur les tombes des adversaires pour dire, ben voilà, on recoue le tissu au-delà même des clauses, et au-delà même des clauses qui font débat. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'absolument crucial. Ça marche ou ça marche pas, mais évidemment, il y a très vite une pensée que la paix, c'est plein d'autres choses que les clauses des traités.
Tommy Ungerer au micro de Martin Kénéen en 2012 sur France Culture.
Il faut voir qu'après la guerre, c'était pas rigolo, on attendait les Français, mais ça n'a pas été tellement mieux. À l'école, moi je me passionnais pour la littérature française et mon professeur qui me disait « perdez votre accent, vous vous intéressez à la littérature ». Alors d'être traité pendant des années constamment de sale bouche avec mon accent, alors que ce sont les Français qui ont collaboré, c'est-à-dire que même pas après la guerre, même 10 ans après, n'est-ce pas, avec un accent allemand, on était automatiquement sale bouche. Vous savez, mon frère, par exemple, il a pris des leçons pour perdre son accent. Et moi, je l'ai gardé. Et souvent, je dirais alors là, presque exprès. Alors, vous voyez, comprenez, dans des cas pareils, ce sont des choses où la colère s'empile, vous savez, c'est malsain, c'est comme un troupeau de bêtes noires, ce sont des marottes, on appelle ça des marottes. Et alors, de temps en temps, il suffit d'une étincelle pour que tout à coup, pour faire sauter les fusibles. Alors là je me fais entendre, mais souvent aussi avec raison, et là je ne le regrette pas, alors, à ce moment-là.
L'Allemagne et la France, ce sont des pays amis?
Non, pas au début, mais maintenant oui.
Maintenant oui?
Oui.
Et vous savez qu'ils vont devenir amis encore plus?
Non, pas encore.
Est-ce que vous souhaiteriez qu'ils deviennent amis encore plus?
Oui.
Pourquoi?
Parce qu'il n'y aurait plus de guerre.
Mais c'est ça que vous souhaitez?
Oui.
Signé le 23 janvier 1963, ratifié 5 mois après par les deux parlements français et allemand, ce traité vient de sceller l'amitié franco-allemande. Voici ce qu'on en dit en France et en Allemagne. C'est le marché commun qui rapproche les deux pays, c'est aussi la politique de la République fédérale et du général de Gaulle.
Je trouve extraordinaire que si peu de temps après ce qui s'est passé, après cette affreuse guerre, on ait tout de même réussi justement à se rapprocher à ce point.
ORTF, 1963.
Sur le plan sentimental, villes et villages allemands et français commencent leur jumelage. Et puis, 1961, c'est la visite du président de la République fédérale allemande, M. Lübcke, qui vient en visite officielle en France. Pour lui, cette amitié ne fait aucun doute.
Pour nous, autres Allemands, cette nouvelle communauté avec la France est irrévocable.
En 1962, le général de Gaulle se rend en Allemagne. Venu en visite officielle, il parle aux Allemands de cette amitié née de la souffrance.
Die Zukunft unserer beiden Völker.
L'avenir de nos deux pays.
Auf welchen die Einheit Europas gebaut kann und muss.
La base sur laquelle peut et doit se construire l'Union de l'Europe, le plus solide atout de la liberté du monde, c'est l'estime, la confiance, l'amitié mutuelle du peuple français et du peuple allemand.
Des deux côtés, il y a des gens formidables. Alors ça m'a vraiment ouvert l'esprit aussi, il faut bien le voir. Mais quand même, d'être traité pendant les années d'après-guerre, tout ça a disparu maintenant avec l'Europe. Mais d'être constamment un sale boche et même de se faire casser la gueule, franchement, tout ça a complètement changé. C'est donc l'Alsace à deux visages, parce que nous sommes Janus, la France et l'Allemagne. C'est pour ça que je parle toujours de mon caméléonisme. Parce qu'on apprend à s'adapter à l'un et l'autre. Et dans le sens, nous avons quand même aussi de la chance. Parce que chaque fois que les Français et les Allemands arrivent, ils nous mettent des beaux monuments pour prouver qu'ils étaient là. N'est-ce pas? C'est quand même... Et d'ailleurs, le beau monument aux morts que nous avons avec cette femme et les deux hommes morts, un qui est mort pour la France et un qui est mort pour l'Allemagne.
Ça croise les discussions qu'on a dans cette émission sur la réconciliation et sur la construction sociale de la paix. C'est que les cadres juridiques... Et même les cadres étatiques, on le voit bien aujourd'hui, ne sont qu'un des aspects de la construction de la paix. Parce qu'en réalité, on voit bien que le cas de la Russie aujourd'hui a rejailli de manière extrêmement puissante. C'est qu'en réalité, la construction sociale de la représentation de la Russie par elle-même, finalement, était peu pacifique. Alors évidemment, il y a Poutine qui est d'une violence rare, hein, qui a un rapport à la violence qui est très particulier. Mais il y a aussi cette idée sans doute hein, que la période post-perestroïka, la fin de l'URSS, finalement, n'ont pas construit un rapport de réconciliation pour autant. C'est-à-dire que c'est autre chose. On peut avoir l'impression que, bon, par faute d'adversaire, la guerre froide est terminée. Mais en réalité, finalement, quels sont les processus qui ont été de pardon, d'oubli, de réconciliation qui étaient en jeu? On voit que finalement, il y a toujours des mécanismes cachés, des violences cachées. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est un peu comme ça qu'analysait la montée du nazisme un philosophe comme Ernst Bloch. Il disait finalement, dans une société, il peut y avoir des violences cachées. J'aime bien ce terme, hein. Ou des violences contenues, qui n'apparaissent pas, qui ne sont pas évidentes, mais qui sont liées à la fois au rapport de force, aux luttes sociales, et en même temps à la situation des gens dans le temps, et que donc, il y a un moment où cette violence cachée, en quelque sorte, hein, qui est du ressentiment, de la frustration, c'est très clair pour les Allemands de l'entre-deux-guerres, mais sans doute ça doit avoir une part aussi dans la Russie contemporaine, à un moment, finalement, c'est là que ça déclenche, évidemment, des violences ouvertes, et qui là deviennent d'autant plus difficiles à contrôler qu'elles viennent de loin en réalité, et que ce n'est pas juste finalement la conjoncture. Et donc ça veut dire que la réconciliation n'a pas été faite, que ces sociétés ne sont pas en paix avec elles-mêmes et en paix avec les autres, et que du coup à un moment ça jaillit. Beaucoup de théoriciens aujourd'hui de la paix et de la non-violence hein, considèrent que c'est jamais un travail de temps court. Faire la paix, c'est pas faire la paix. Vous et moi, on signe un accord et on ferme la porte. En fait, c'est la construction de la non-violence. Et donc du coup, ça demande tout autre chose hein, qu'à des arbitrages.
Comment faire la paix après la guerre ? La question reste ouverte, ainsi que ses nombreux chantiers. Comment se projeter? Comment repenser les lieux, les langues? Comment penser une histoire individuelle et collective? Nairi Khatchadourian, historienne de l'art et commissaire d'exposition, vit à Yerevan entre deux guerres.
Durant la guerre d'Artsakh de 44 jours, en 2020, la région du Haut-Karabakh a perdu de nombreux territoires. Et à la fin de la guerre, lorsque l'évacuation a eu lieu, le territoire de Karvajar, dans le nord-ouest de l'Artsakh, du Haut-Karabakh, elle est passée sous juridiction azérie. Et dans cette région se trouve le monastère arménien médiéval d'Adivank. Lorsque nous avons su que cette région n'allait plus être sous notre autorité, une foule d'Arméniens a voulu aller se recueillir dans ce monastère et un pèlerinage impromptu, improvisé, singulier a eu lieu le 13 novembre 2020. Avec mon collectif d'artistes, on a voulu être présent et on a voulu créer et faire un geste, un acte très pur, très simple, préhistorique même, on a créé des empreintes. On a pris avec nous des feuilles de papier, des crayons et de l'argile, des plaques d'argile, pour réaliser des empreintes sur place. Pour nous, c'était très important d'inscrire le territoire et l'instant de ce pèlerinage, l'instant présent, sur un document. Il se trouve que ce document, donc, c'est l'empreinte sur papier et sur argile. Donc on a créé in situ 35 empreintes des murs sculptés du monastère. Donc il y a certaines empreintes qui sont des inscriptions en arménien. Il y a certaines empreintes d'ornements géométriques, religieux. À travers ces empreintes, ensuite, on peut raconter donc l'histoire de ce patrimoine, l'histoire de comment est-ce qu'on habite le patrimoine en temps de guerre et en temps de paix. Et comment est-ce qu'on peut créer aussi autour de ce patrimoine ? Donc, l'empreinte, au final, ce n'est pas l'œuvre originale de ce complexe monastique, l'œuvre architecturale. Hein. C'est pas une copie non plus. C'est une nouvelle sorte de mémoire manuelle. Puisqu'on fait face à des adversaires qui ont une politique de destruction. Cet acte de créer une empreinte, c'était aussi un acte de créer une trace pérenne pour que ça soit aussi une preuve scientifique, donc une archive importante. Je me questionne, est-ce qu'on peut interpréter ces empreintes comme des masques mortuaires, c'est-à-dire qu'on réalise des empreintes parce qu'on ne va plus pouvoir voir pendant un certain temps ce patrimoine, ce bâti. Donc c'est vrai qu'il y a des liens avec le rituel funéraire.
Pour moi, l'Alsace, c'est mein Boden, c'est meine Heimat, n'est-ce pas? On n'a pas ce mot-là en France. En Allemagne, on a le Vaterland et on a le Heimat. Nous, on a le Heimat. Le Vaterland, c'est la patrie, hein, qui vous envoie au front pour vous fassiez descendre, etc. Non, le Heimat, c'est le home. Ce serait le home.
Le foyer.
Voilà, merci. Voilà, c'est le foyer.
Merci à Marcel Lemonde, Nicolas Offenstadt et Nairi Khatchadourian. Lecture, Olivier Martineau. Merci à Lorraine Woster pour la lecture en Lakota. Prise de son, Thibaut Nassim Ben et Laurent César. Mixage, Manon Houssin. Documentation, Anne-Lise Signoret. Archivina, Véronique Jolivet. Attachée de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Carvran. LSD, hisser les drapeaux blancs, comment faire la paix. Quatrième épisode, les adieux à la guerre. Un documentaire de Marie Chartron, réalisé par Franck Lilin.